Donc je vais parler aujourd'hui d'externalité de recherche, d'externalité technologique entre individus. C'est une question... Alors, je retrouve, j'ai la craie, là, donc c'est tout ce qu'il faut. Donc, en fait, si vous voulez, c'est dans quelle mesure la recherche ou la recherche-développement ou les activités innovantes de certains individus influencent celles des autres, celles de ceux qui travaillent avec eux, également, peut-être de gens qui ne travaillent pas avec eux, mais qui sont dans leur voisinage. Et donc, c'est vraiment tout ce qui est external. Voilà. Et c'est très important de se poser ce problème. Vous vous souvenez que quand on avait vu... D'abord, on avait commencé par voir un petit peu, vous savez, les données historiques américaines, et on avait vu que les gens qui innovaient, les inventeurs, avaient tendance à aller vers des endroits où il y avait d'autres innovateurs. D'accord ? L'autre chose qu'on a vue, c'est qu'en général, d'être près de zones accessibles, vous voyez, d'être près de ports, ça avait une influence sur l'innovation. Bon, ça, c'est intéressant, c'est un aspect géographique, si vous voulez. Donc, c'est intéressant de se demander dans quelle mesure les autres sont importants dans vos activités de recherche et dans vos activités d'innovation. Il y avait un peu un débat, il y a un an et demi, à une conférence où j'étais, il y avait deux collègues à moi qui travaillaient également sur la croissance, Paul Romer et Robert Lucas. Robert Lucas a eu le prix Nobel. Paul Romer travaillait aussi sur la croissance endogène. Et en fait, ils se sont crêpés le chignon parce que Lucas avait travaillé sur des modèles où, en fait, on augmente son savoir parce qu'on rencontre des gens et tout d'un coup, ils savent plus que vous et ils vous transmettent du savoir, d'accord ? De la diffusion, en fait. Et lui travaille beaucoup sur ces modèles, voilà. Et en fait, j'ai un collègue à moi ici, Pierre-Louis Lyons, qui a travaillé également sur ces modèles avec un co-auteur de Robert Lucas. Voilà. Donc, c'est des modèles très intéressants où vous tombez sur quelqu'un qui connaît mieux que vous et il vous transmet son savoir. Et ça crée de la croissance de la productivité, ces rencontres. En fait, ça, c'est drôle parce qu'un jour, j'étais au musée à New York à 9h du matin ou à 10h du matin à l'ouverture du Met, du Metropolitan Museum, et il y avait une exposition étrusque, il n'y avait personne dans le musée, et je suis tombé sur Lucas. Ouais, ça, c'est drôle, hein ? Dans cette conférence, ce fameux Robert Lucas, Paul Romer lui avait dit « Mais ce que tu fais, ça vaut rien. Moi, je crois dans l'innovation, je ne crois pas du tout dans le capital humain. » Et il lui avait fait une polémique, voilà. Et Lucas était reparti furieux. Et moi, je n'avais pas compris le sens de cette critique parce que je me disais, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Il y a à la fois, on fait de l'innovation, mais à la fois, on apprend des autres. Et les deux vont ensemble. Et les deux s'alimentent l'un l'autre. Effectivement, je ne comprends pas pourquoi, au nom du fait qu'on croit dans l'innovation, on ne doit pas croire dans tout ce qui est apport des autres, si vous voulez. Voilà. Donc, et en fait, de fait, maintenant, il y a des modèles qui commencent à se développer où les deux sont combinés. Je parlerai d'un de ces modèles aujourd'hui. Donc voilà, un petit peu l'idée que les autres, ça vous influence. Et ce débat voilà, qui me paraissait un petit peu injustifié. Il y a eu des études, beaucoup dans les années 70, etc., par toute l'équipe d'un chercheur qui s'appelait Zvi Grilikes. Et il avait toute une... je dirais une écurie de chercheurs, mais de grands talents, qui travaillaient avec lui. Et ils ont essayé de regarder, de dire, voilà, quand il y a d'innovation dans une région, ça influence l'innovation dans des régions voisines. La R&D, si par exemple, vous êtes près de régions où il y a beaucoup de recherche-développement, il y a plus de chances que vous fassiez de la recherche-développement. Et donc, ils ont essayé de mettre en évidence des externalités géographiques, si vous voulez, entre intensité en recherche-développement dans une région A et intensité de R&D dans des régions voisines. Voilà. Et ils ont montré qu'il y a des corrélations. Et en fait, quand j'ai fait un papier sur inégalité-croissance récemment, et je voulais regarder l'effet de l'innovation, comment l'innovation affectait les inégalités de revenus. Mais je voulais avoir une relation causale, il me fallait un instrument pour innovation dans un État américain donné. Et un des instruments qui marchait bien, c'était l'intensité d'innovation dans les États environnement, cet État-là. Et c'est un bon instrument. Et c'est un bon instrument parce qu'effectivement, la recherche dans les autres pays, États, influence mon intensité en recherche-développement. Alors peut-être sous l'effet de la concurrence, quand les autres en font, j'en fais, mais aussi parce que je profite d'externalités technologiques. Les gens me transmettent leur savoir. Je baigne dans un milieu où il y a du savoir. Vous avez vu également la dernière fois, on avait montré que si on avait des parents... si on avait des parents qui travaillaient dans des secteurs innovants, on avait plus de chances d'innover. Ou si on avait des parents innovateurs, on avait plus de chances d'innover. Tout ça, c'est des externalités. Voyez, donc on sent bien que c'est important, cette histoire d'externalité. C'est-à-dire que l'innovation est un processus social. On ne fait pas ça dans son coin et le reste du monde n'existe pas. C'est un processus social. Et donc, on veut comprendre la nature de ce processus social d'innovation. C'est de ça que je vais parler, aujourd'hui. Par exemple, une chose très intéressante également, c'est que la révolution verte, un aspect intéressant, c'est qu'il y a eu, vous savez, la diffusion de technologies nouvelles pour la culture, pour l'agriculture, et ça a permis de sortir des pays de la famine. Mais c'est vrai que c'était surtout les pays qui faisaient déjà de la recherche-développement eux-mêmes qui ont su profiter du savoir des autres. Donc il y a un peu une relation dans les deux sens, c'est-à-dire que l'innovation des autres m'aide à moi à faire progresser mon savoir, mais le fait que je fais moi de la recherche-développement peut aussi augmenter ma capacité à apprendre des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a cette notion qu'ont développé des collègues à moi, Cohen et Levinthal. Alors maintenant, vous savez, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre toutes les références en ligne et en fait, on va remonter et vous aurez, en fait, d'ici une semaine ou deux semaines, toutes les références de tous les articles que j'ai mentionnés dans ce cours. Comme ça, vous pourrez vous-même aller regarder les articles. Mais Cohen et Levinthal ont parlé de la notion de absorptive capacity. C'est-à-dire l'idée que, en gros, si moi je fais de la recherche, j'augmente ma capacité d'apprendre des autres. Voilà, ça fait que je peux plus facilement absorber les technologies des autres. C'est une idée intéressante. C'est-à-dire que c'est voilà, parce que des fois on pourrait penser, parce que si vous voulez, on a pu penser qu'il y avait, voyez, on se dit si j'apprends des autres, si la R&D des autres m'est utile, à la limite on pourrait se dire pourquoi je dois en faire moi-même. Effectivement, on sait que si les autres font de la R&D, vos voisins font de la R&D, c'est déjà bon pour votre croissance. Donc, vous pourriez vous dire, mais finalement, pourquoi je dois, moi, me faire l'effort de faire de la recherche-développement? Les autres en font. Et finalement, pourquoi, moi, je dois me fatiguer? Je vais faire de free riding, en anglais. Je vais resquiller sur les autres. Mais contre l'idée du passager clandestin, si vous voulez, Cohen-Levinthal met en avant cette idée d'absorptive capacity. Ils disent non, au contraire, je vais vouloir faire de la R&D parce que ça me permet de mieux profiter de ce que font les autres. Je peux dialoguer avec les autres. Je dois apprendre moi-même pour apprendre des autres. Voyez, voilà. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelait Le rideau déchiré de Hitchcock. Vous avez jamais vu ce film où il y a Paul Newman qui essaye de prendre le savoir d'un physicien est-allemand. Et seulement, lui, il a besoin déjà de connaître des choses, parce que si lui ne connaît rien, il ne peut pas engager l'autre, vous voyez. Et donc, voilà. Mais ça, c'est voilà. Peut-être que... Je ne sais pas si Cohen et Levinthal avaient vu le film d'Hitchcock avant de faire leur théorie. J'aurais dû leur demander. Voilà, un petit peu... J'essaye un peu d'introduire ce que se dit. Alors, ce que dit la théorie, maintenant? La théorie dit la chose suivante. La théorie dit qu'en gros, l'innovation, il y a des externalités positives et négatives. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les, en anglais, intertemporal spillover. C'est-à-dire que mon innovation, si moi j'innove, c'est utile aux autres. Et donc les autres vont se reposer sur ce que je fais. Donc il y a beaucoup l'idée que moi j'innove, c'est bon pour moi, j'aurai des rentes d'innovation, mais ça fait bouger la frontière de savoir et c'est bon pour tout le monde. C'est une externalité positive que j'exerce sur les autres après, d'accord ? Que je ne prends pas pleinement en compte. Donc s'il n'y avait que ça, je sous-investirais en recherche-développement parce que je ne prends pas en compte les externalités positives que j'exerce sur les autres. Mais il y a également, dans l'autre sens, il y a ce qu'on appelle « business stealing ». Business stealing, c'est ce qu'on appelle les effets d'éviction. Hein, c'est les effets d'éviction, c'est-à-dire, en général, quand j'innove, c'est la création destructrice de Schumpeter. Quand j'innove, je remplace d'autres gens. Et ça, je ne l'internalise pas non plus. Ça, ça me fait faire... C'est le fait de ne pas internaliser ça veut dire que je fais trop, de, quelque part, d'innovation par rapport à ce qui serait optimal. Vous voyez, il y a de la duplication. On est peut-être plusieurs à faire et il n'y a qu'un gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'effet d'éviction. Et en gros, les externalités de base, c'est celle-là. C'est l'effet de intertemporal spillover et l'effet d'éviction. Et le tout, c'est de savoir d'abord quelle est l'importance de ces effets et comment ils jouent, quoi. Voilà. Et évidemment, ça influe aussi sur l'intervention publique. Si l'effet dominant, c'est celui-là, ça veut dire que vraiment, globalement, on ne fait pas assez de recherche, et donc il faut subventionner la recherche, et il faut que l'État intervienne. D'accord ? Mais peut-être qu'il se pourrait que ce soit cet effet-là qui soit dominant, auquel cas, on pense que l'intervention de l'État devrait être pensée différemment. Et donc, il faut essayer de voir est-ce qu'on peut mesurer l'importance de ces effets, voyez. Et donc là, je vais vous parler de tentatives, de dernier cri, un peu de la recherche, pour essayer de mesurer l'effet d'externalité positive et l'effet d'éviction dans la recherche. Parce qu'évidemment, ces effets ont une implication importante pour les décisions publiques, pour les politiques publiques, d'accord. Et donc, je vais vous parler de ça. C'est une longue introduction, je vous embête beaucoup aujourd'hui, avec des généralités. C'est un petit peu pour vous mettre dans le bain, là. Hein, voilà. Hein. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y avait? Externalité, il y a eu des études dès les années 60. Grilliquez vous dit, la recherche que fait les autres, ça influe sur ma recherche et sur la croissance de ma productivité. On peut penser que, du coup, je vais freerider sur les autres. Non, parce que Cohen Levental arrive et ils disent, non, Absorptive Capacity, ma R&D augmente ma capacité à absorber les autres. C'est l'histoire de Cohen Levental et Hitchcock, d'accord. Et puis après, je vous ai dit, bon, en gros, regardons de manière systématique, il y a ces deux types d'effets. Il y a intertemporal spillover et il y a le business stealing. Et je vais regarder l'importance de ces effets relatifs. D'accord ? C'était un petit peu ce que je... Donc maintenant, je vais commencer. J'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, on va y aller. C'est assez soutenu, mais c'est voilà. Alors, je vais... Donc, la partie zéro, vous voyez, j'ai une partie zéro. J'ai en fait cinq parties, d'accord ? Donc, on a du boulot, là, aujourd'hui. Hein. Je vous mets à rude épreuve. Donc, c'est des généralités. Hein. Donc, chaque innovation, c'est ce que je vous ai dit. Là, je ne fais que répéter ce que j'ai dit et j'annonce un peu le plan. Chaque innovation pousse la frontière technologique, ce qui stimule d'autres innovations dans le futur, mais que l'innovateur initial n'internalise pas. En anglais, on utilise le terme « intertemporal knowledge spillover », celui-là, hein, d'accord ? Le premier, là. Ensuite, deuxièmement, chaque innovation évince des activités existantes. En anglais, on utilise le terme de « business stealing effect ». Et ça, c'est l'effet d'éviction dont je vous ai parlé là. L'effet de Cohen-Levental, c'est un effet qu'il faudrait rajouter à ici, si vous voulez. C'est encore un effet différent de celui-là et de celui-là. C'est un effet qui tempère un peu celui-là, voilà. Mais c'est ça que je voulais vous dire là. Donc, on va surtout se pencher sur ces deux effets. Alors, l'idée qu'il puisse y avoir des externalités technologiques positives, c'est-à-dire que le savoir soit un bien public, est très intuitive. Mais démontrer empiriquement l'existence de ces externalités soulève des difficultés. Une première difficulté, c'est que les décisions de R&D sont endogènes. Donc, il faut instrumenter la R&D. Je ne peux pas juste dire la R&D de l'autre détermine ma R&D parce que la mienne détermine la sienne. Et quelque part, il se pourrait qu'il y ait plusieurs équilibres. Un où on fait tous beaucoup de R&D et un où aucun de nous n'en fait. Et donc, on voudrait avoir des paramètres plus fondamentaux, si vous voulez. Par exemple, on avait vu la dernière fois les impôts. Vous vous souvenez quand j'avais utilisé les changements de législation fiscale? Ça, c'est un très bon instrument. Dès que vous avez des changements de réglementation ou de le marché unique, ça, c'est toujours de bons instruments. Vous voyez, la politique, c'est utile pour l'économétrie. Vous voyez, ça vous donne des instruments. Donc ça, c'est une des premières difficultés, c'est l'endogénéité des décisions d'R&D. Et puis, donc, il y a ces effets d'éviction qui peuvent conduire à des duplications inutiles d'efforts en R&D. Il faut bien les comprendre. Et il faut tenir compte, évidemment, de l'hétérogénéité en matière de performance. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour faire de la R&D. Et la dimension hétérogénéité est évidemment importante. Et on va voir comment elle est exploitée dans différentes études. Donc, au début, si vous voulez, les études, c'était vraiment Grilliquez. Il regardait la R&D d'un pays, comment ça influe la R&D d'un autre pays ou d'une région. Et maintenant, comme c'est pareil avec l'économie du travail, on est allé beaucoup plus en micro. Vous voyez ce que je veux dire? On va beaucoup plus dans le détail de ce qui se passe. On regarde des individus, on regarde au niveau individuel, voyez, on connaît les gens, on sait leurs revenus par les données fiscales, on connaît les revenus des gens qui travaillent avec eux, et on peut, les DADS, l'équivalent des DADS français, et on peut du coup regarder de manière très très fine les externalités et les mettre vraiment en évidence, comme on ne pouvait pas le faire, disons, il y a 10 ans, il y a 20 ans, etc. D'accord ? On passe vraiment à une technologie différente. Alors voilà un peu les articles dont je vais parler, c'est vraiment, évidemment, j'oublie celui-là, puisque c'est comme c'est dedans, les bons, c'est ceux-là, là, hein. Alors, c'est vraiment les articles, disons, en économie de l'innovation, que si vous en avez entendu parler, vous parlez de ces articles-là, tout le monde va dire que vous êtes un érudit en économie de l'innovation, c'est vraiment le dernier cri. D'accord. Donc vous avez, je vais parler de Azoulay sur Superstar Extinction. Donc Azoulay regarde les superstars, qu'est-ce qui se passe quand un chercheur superstar décède prématurément? Comment ça affecte la carrière de ses co-auteurs? Donc c'est intéressant de savoir ça quand même, hein. Bon, on va parler de choses très gaies. C'est vrai qu'après la Toussaint, je commence à parler de ça, évidemment. C'est... Bon. Ensuite, Jaravel continue Azoulay. Donc, Jaravel est mon étudiant qui va sur le marché du travail cette année. Il est absolument formidable. Il est une superstar lui-même en économie de l'innovation. Et lui regarde plus généralement les externalités, pas juste avec des superstars. Et il peut regarder ça dans des entreprises. Vous allez voir qu'il va beaucoup plus loin qu'en fait qu'Azoulay. Bien qu'il retrouve les effets d'Azoulay, mais va beaucoup plus loin qu'Azoulay. D'ailleurs, c'est très sympa la recherche, parce que vous voyez, Azoulay lui-même maintenant reconnaît que Jaravel fait beaucoup mieux que lui, et il s'incline devant Jaravel. C'est ça la profession. Il y a la destruction créatrice, et dans notre profession également. Voilà. La troisième chose, je vais parler de cet article de Borjas et Doran, et qui montre comment, quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, des mathématiciens soviétiques, russes, sont venus, ont émigré dans différents pays. Comme les États-Unis ont été plus malins que nous pour les attirer, il y en a qui sont venus chez nous, parce qu'on a quand même, heureusement qu'on a des mathématiciens géniaux chez nous, mais ce n'est pas grâce à la politique des gouvernements. Ils sont venus beaucoup aux États-Unis travailler. Et ça a eu un impact important sur les chercheurs américains. Les mathématiciens américains. Et donc, on va voir l'effet d'éviction. Là, surtout Azoulay et Jaravel, on va mettre en évidence l'effet de spillover, l'effet d'externalité positive. Mais dans le papier de Borjas, on va mettre en évidence l'effet d'éviction. Vous voyez, on va montrer qu'il y a vraiment un effet d'éviction. Les Russes sont arrivés, et partout où ils étaient bons, les Américains, ça a été mauvais pour eux, pour ceux qui étaient déjà des États-Unis. Bon, donc ça, on va regarder ça. Ensuite, on va parler de l'importance dans la croissance des interactions. Donc ça, c'est l'article de Axigit et al. Donc ça c'est le Dancing with the Stars, hein. Et donc on va regarder un petit peu comment ça. Et après moi je vais vous parler d'externalités dans le climat. Vous voyez, je vais vous montrer que c'est important ce que moi j'ai fait dans le passé par rapport à ce que je fais aujourd'hui ou ce que font d'autres entreprises. Est-ce que si je suis entouré de gens qui font de l'innovation propre, j'ai plus de chances de faire de l'innovation propre. Si je suis entouré par des gens qui font de l'innovation dans les hydrocarbures, j'ai plus de chances de faire de l'innovation dans les hydrocarbures, d'où l'importance de la politique climatique, d'accord. Et donc je vais, voilà, c'est un peu le programme des réjouissances aujourd'hui, peut-être vous regrettez d'être, c'est ça que je vais faire, hein. Voilà. Donc, Azoulay, il considère l'effet de la mort prématurée de chercheurs superstars dans le domaine des sciences biomédicales comme source exogène de variations dans la composition des réseaux de leurs co-auteurs. Il regarde l'effet sur la productivité scientifique des co-auteurs. Le deuxième, c'est Jaravel. Il analyse comment la mort prématurée de certains inventeurs affecte les revenus futurs et le flux de brevets futurs de leurs collaborateurs. On va mettre un effet important de la mort d'un inventeur sur les revenus futurs et le flux de brevets ajusté par les citations. D'accord. Ensuite, il y a Borjas, analyse les effets de vagues d'immigration de mathématiciens russes vers les États-Unis et montre qu'il y a surtout un effet d'éviction à l'encontre des mathématiciens américains. D'accord. Et puis, ensuite, Axigit, eux, regardent les interactions comme source de diffusion du savoir, donc d'innovation, et construisent un modèle pour essayer de chiffrer l'impact de ces interactions sur la croissance et montrent que c'est très important. Donc ça, c'est une réponse à Romer. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ce débat Romer-Lucas. C'est une des manières de répondre à Romer que de montrer cette étude. Ensuite, il y a mon travail avec mes co-auteurs, où on montre qu'une entreprise qui, dans le passé, a beaucoup innové dans les technologies polluantes, tend à innover davantage dans ces technologies. Et une entreprise dont les chercheurs proviennent surtout de pays polluants tend à innover davantage dans les technologies polluantes. Voilà, et ça sera un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Donc ça, c'est le programme des réjouissances. Et donc, sans tarder, je vais passer je vais dans l'affichage. Alors, mode plein écran. Voilà. Alors là, je passe au superstar. Donc, c'est Azoulay avec deux co-auteurs. Pierre Azoulay, c'est un Français qui est parti au MIT. Il est au MIT Sloan School, l'école de business du MIT. Ils ont un groupe très actif sur innovation avec d'autres chercheurs. Vraiment, c'est un groupe formidable. Donc, ils regardent l'effet des superstars. Donc, l'idée générale, c'est de dire, voilà, eh bien, les superstars, en général, elles font travailler beaucoup de gens et beaucoup de gens travaillent avec eux, profitent de ce qu'ils font et ça fait la carrière d'autres gens également. Et seulement, il arrive que les superstars meurent prématurément. Et du coup, on peut regarder, on peut comparer, disons, l'évolution de co-auteurs de superstars qui meurent prématurément de co-auteurs de gens qui sont en tout point identiques aux superstars, mais sauf qu'ils ne meurent pas prématurément. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc on explore cette différence, hein, cette discontinuité, cette difference in difference, comme on dit en anglais, pour identifier l'importance de l'effet de perdre un co-auteur qui est une superstar. Vous voyez ? C'est très... voilà. Donc, on suit... Il étudie l'évolution de production des collaborateurs de 112 éminents biologistes décédés de façon subite et inattendue. Pourquoi s'intéresser au domaine de la biologie ? Ben, c'est un domaine intéressant parce que d'abord, il y a une politique publique dans la biologie. Les subventions publiques sont très importantes aux États-Unis. 29,5 milliards de dollars en 2008. Les changements technologiques ont été majeurs en biologie, en sciences médicales au cours des dernières années. Et il y a une importance très, vraiment prépondérante, et ça on le verra à nouveau dans deux semaines quand je parlerai de l'économie de la science, entre ce qui est recherche fondamentale et recherche appliquée. Donc quand je parlerai de ça à nouveau, mais déjà je veux que cette idée intervienne en vous, c'est il y a vraiment l'aspect recherche fondamentale, recherche appliquée, c'est-à-dire qu'en gros, mais ça j'en parlerai de manière plus détaillée dans deux semaines, mais vous pouvez regarder, c'est de manière très simplifiée, l'exploration d'une ligne de recherche comme quelque chose à plusieurs étapes. Vous avez l'idée I0, après ça devient l'idée I1, etc. Ensuite l'idée IN et la commercialisation. C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'une idée, vous la prenez de manière très fondamentale et puis vous l'améliorez, améliorez, améliorez, et puis à un moment donné, elle devient quelque chose de commercialisable. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, au niveau fondamental, on a des idées qui vous viennent du stade beaucoup plus pratique. Mais disons que c'est une manière déjà de représenter les choses. Et la question, c'est de savoir, évidemment... la recherche fondamentale, c'est celle qui conduit aux innovations qui sont à un stade très très linéaire, et la recherche plus appliquée, c'est celle qui conduit à des innovations qui sont beaucoup plus près de la commercialisation. Et évidemment, on verra que c'est assez différent, que les externalités en jeu sont différentes, et que pourquoi ça fait sens pour un gouvernement d'intervenir d'une manière ou d'une autre, surtout au niveau fondamental. Mais donc ça, on verra ça petit à petit. Mais c'est un domaine où c'est particulièrement vrai, c'est la biologie, et les exemples que je prendrai dans deux semaines également seront essentiellement tirés de la biologie. D'accord. Ensuite, bon, ben, les salaires sont variables, ils sont conditionnés aux bourses de recherche obtenues. Hein. Je vous en avais déjà parlé quand on avait dit les financements, quand il y avait eu les financements de long terme versus de court terme, le NIH versus l'autre mode de financement, vous vous souvenez ? Donc c'est des choses qui recoupent, des choses que vous avez vues, et l'importance des connaissances tacites apprises au contact des collaborateurs, parce que ça aussi c'est un élément très important, si vous voulez. Dans le savoir, il y a le savoir codifiable. Hein, celui que vous pouvez répliquer dans une recette de cuisine. Et puis, il y a le savoir qui n'est pas codifiable, que vous apprenez parce que vous travaillez avec quelqu'un. Et c'est ce qu'on appelle le savoir tacite. Et l'importance du savoir tacite, évidemment, joue un rôle et elle intervient beaucoup à ce niveau-là. Alors, donc qu'est-ce que fait Azoulay ? Il regarde un panel, c'est-à-dire des individus au cours du temps, un panel de 5267 collaborateurs de stars du monde scientifique, et ils regardent l'évolution de leur production scientifique après le décès prématuré d'un chercheur superstar, en termes de publications, de citations et de bourses. Et la période utilisée est 79-2003. Alors, comment définir un décès inattendu ? Eh bien, le groupe, il regarde 112 décès inattendus. Un décès, c'est quelque chose, un décès dit inattendu par Azoulay et ses co-auteurs, quand il a lieu moins d'un mois après le diagnostic, s'il y a eu le diagnostic, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment l'idée de quelque chose de très soudain. Pensez à une maladie foudroyante, une attaque cardiaque, un crash aérien, un accident de plongée, etc. D'accord ? Et le groupe de contrôle, c'est 163 décès anticipés, c'est-à-dire tous les cas non compris dans la précédente définition. Par exemple, les longues maladies, quoi. Et donc, il compare ces deux groupes, vous voyez. Et il dit, voilà, vous voyez, des co-auteurs, il y a les co-auteurs qui, de gens qui meurent de manière, vous voyez, de prévue et pas prévue. Et est-ce que je vois des différences, d'accord? C'est ça que fait Azoulay. On va voir que Jaravel fait quelque chose de beaucoup plus convaincant que ce que fait. Mais Azoulay, disons que Jaravel, il y avait Azoulay avant, hein, c'est toujours comme ça la recherche. S'il n'y avait pas eu Azoulay, il n'y aurait peut-être pas eu Jaravel, hein, d'accord? Donc, et donc, qu'est-ce que montre donc, on voit à peu près les superstars. Donc, ça, c'est les superstars. Ben, ils ont en moyenne, quand ils décèdent, 57 ans. Ils ont en moyenne 47 collaborateurs. Voilà. Et ils ont un funding de, disons, alors ça représente combien, ça? Ça représente 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est ça, à peu près, hein? Et puis, en général, le nombre de publications, vous voyez, donc ils ont quand même, c'est des gens qui ont beaucoup de publications, typiquement, hein, voilà. Et citations, très nombreuses citations par publication. Donc, vous voyez, c'est des gens qui publient beaucoup et qui par article ont beaucoup de citations. Enfin, ça, c'est les citations, je pense que les 8000, ça doit être des Google Sites, je pense, non? C'est pas des Google ou des... Hein, c'est ça? Voilà, donc c'est des gens en général qui meurent à 5, voilà, jeunes, évidemment, par définition. Ils ont beaucoup de collaborateurs, ils ont beaucoup de fonds, ils mobilisent beaucoup de fonds du National Institute of Health, quand c'est dans la biologie, hein, dont on parle. Ils ont beaucoup de publications et ils ont un indice de citation, 8000 Google, c'est un très raisonnable indice. Voilà, voilà, par exemple, M. Isner, décès à la suite d'une attaque cardiaque en 2001. Et son domaine, c'est la médecine, Internet, cardiologie, pionnier en thérapie génique. En thérapie génique ou génétique? Génétique, je pense. Oui, génique, je ne connais pas. Voilà. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils peuvent, ce que peuvent faire, ce que fait Azoulay et ses co-auteurs, c'est qu'en fait, il arrive à matcher, c'est-à-dire qu'on arrive à... On voit à partir des publications qui a travaillé avec qui, parce que le tout, c'est de localiser les co-auteurs. Et on localise les co-auteurs à partir des noms et des publications. Alors, des fois, il y a des problèmes d'homonymie. C'est pour ça que, normalement, on devrait arriver à taux de 100% de réussite d'utiliser les papiers et les noms des co-auteurs par les papiers. Mais des fois, il y a plusieurs gens qui ont le même nom. Surtout John Smith, par exemple. C'est très facile d'avoir John Smith ou... Je connais plusieurs. J'avais un homonyme à moi, vous savez. Il y avait un autre, Philippe Aguillon. Je ne vais pas vous raconter les histoires de mon homonyme. Des fois, il faisait des bêtises, il avait des accidents de voiture. Ça m'est retombé chez moi. Mais je ne veux pas vous raconter une histoire d'homonyme. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez. Mais c'est, donc, on regarde par les co-auteurs, on regarde les papiers. Et on dit, voilà, celui-là, il a tel co-auteur, etc. Et on a une trace de tous les co-auteurs. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous embêtez pas avec les équations. C'est qu'il regarde. La recherche des co-auteurs, donc le J, Monsieur J, c'est le collègue, c'est le co-auteur de la superstar, et il regarde comment le nombre de publications, le nombre de citations ou les bourses que mobilise Monsieur J, hein, dépend, eh bien, est affecté par le fait qu'il y ait eu mort prématurée de Monsieur I avec qui Monsieur J a collaboré, d'accord? Et donc, c'est ça qu'on essaye de regarder, vous voyez. Et on contrôle pour l'âge de M. J, on contrôle pour l'année à laquelle c'est fait, etc. D'accord? Donc, c'est ça qu'on regarde. Comment la mort de M. I affecte la productivité et l'efficacité de M. J. Voilà. Alors, on va voir tout. Et tout de suite, il montre la chose suivante. Alors, le JIF, là, vous pouvez vous demander ce que c'est. JIF, c'est les publications ajustées par la qualité des journaux. JIF, c'est pour Journal Impact Factor, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle eh bien, un papier dans ce journal est cité par d'autres papiers. Voyez, donc, on a des indices de citation des journaux. En général, on regarde l'impact d'un chercheur parce qu'on dit, voilà, il publie pas mal dans des journaux qui eux-mêmes ont de l'impact. Enfin, on voit aussi directement l'impact du chercheur. Mais... ce qui est très intéressant, c'est que donc on regarde les publications, le nombre de publications, mais corrigé pour l'impact des publications. C'est ça qu'il faut. Donc on ne met pas sur le même plan une publication qui n'est pas du tout citée, une publication qui est très citée. Et l'important, c'est qu'on voit vraiment un effet négatif de la mort d'une superstar sur les publications des co-auteurs. Vous voyez, ici, avant, on regarde les publications, eh bien, c'est, au cours du temps, ça, c'est des années, vous voyez. Donc, au cours des années, il n'y a pas vraiment de changement dans le train des publications du co-auteur. Et puis, à partir du moment où il y a la mort de la superstar, ça descend, vous voyez. Donc là, c'est les publications. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble des publications. C'est que non seulement ça affecte mes publications, y compris celles que j'ai, des papiers que j'ai faits avec le co-auteur qui meurt, mais là, ce qui est remarquable à droite, c'est que ça affecte également je deviens moins productif dans ce que je fais avec d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est très intéressant. Parce que ça serait évident de dire, évidemment, t'as la superstar qui meurt, ben évidemment, tes papiers avec lui vont traîner, il sera peut-être pas là pour défendre le truc aussi bien dans les séminaires, et donc ça va chuter. Mais là, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit également qu'il y a un impact négatif de la mort de la superstar sur les papiers que l'autre faisait avec d'autres gens que la superstar. Tu vois, donc ça, c'est quand même intéressant, toi, de voir ça. Donc voilà, donc ça c'est là de la chose que je voulais montrer là. Alors par quel mécanisme? Alors maintenant on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement? Derrière par quel mécanisme peut-on expliquer l'effet de la mort d'une superstar sur la baisse significative de l'effet de la mort en termes de significative sur la production scientifique de ses collaborateurs? Donc il y a plusieurs hypothèses. L'une c'est de dire, ben, il était très bon et tu remplaces pas ses qualifications. L'autre, c'est de dire, en fait, si tu veux, la superstar, il avait son influence à lui, quoi, si tu veux. Quelle que soit la qualité, il était bon pour défendre le truc, quoi. Il était très établi dans la profession et il pouvait mieux défendre ce que vous faisiez ensemble. Et la dernière, c'est vraiment l'externalité de connaissance, c'est-à-dire de dire, il y avait un vrai apport de la superstar et tu apprenais de la superstar. Et on va montrer que le troisième est très important. Donc, on va regarder chaque explication une par une. Il y a l'idée de dire que les équipes de recherche émergent pour regrouper des expertises différentes de scientifiques qui, individuellement, ne disposent pas d'un éventail assez large de connaissances. Donc, la perte d'un scientifique star fait perdre une expertise importante à l'équipe de recherche. D'accord ? Donc, on peut regarder... là, on voit qu'en fait, les collaborateurs réguliers sont plus affectés que les collaborateurs occasionnels, mais on ne voit pas d'effet, on ne voit pas vraiment d'effet important. Vous voyez, soyons qu'on soit... Parce que si c'était un effet important, bah, ça devrait être différent selon qu'on est collaborateur régulier ou récent. On voit effectivement que ça affecte un peu plus les collaborateurs réguliers, mais la différence n'est pas significative. Vous voyez, pas d'étoile, là. Vous voyez, ce n'est pas un effet... C'est un effet qui n'est pas vraiment significatif, voilà. Donc, on voit que l'effet est légèrement négatif, mais non significatif statistiquement, voilà. Donc c'est pas... Il y a peut-être des complémentarités de skills, mais on ne voit pas en ça, si tu voulais, on ne voit pas vraiment... Si c'était vrai, ça devrait affecter différemment des gens plus réguliers ou plus récents, etc., et on ne voit pas de différence significative. Donc, cette explication, elle n'est pas la plus importante. Donc après, on n'arrive pas. Il y a peut-être un peu de imperfect skill substitution, mais ça peut pas être l'effet principal. Voilà. Donc on va maintenant une autre explication, c'est que les superstars peuvent permettre à leurs collaborateurs un accès plus facile aux ressources, fonds de recherche, charges administratives. Vous voyez, ils mobilisent des ressources plus grandes et ils ont accès, ils peuvent facilement obtenir des bourses, etc. Et là, on regarde à nouveau, on voit pas d'effet. Vous voyez, par exemple, on dit, voilà, est-ce que c'était plus important si la superstar qui est décédée était dans un panel, dans un review panel du NIH, ou s'il avait des liens avec des review panelistes, voilà, est-ce qu'il était proche dans un terme de réseau, de beaucoup plus proche que les autres, et on ne voit pas vraiment ici, sur cette étude, d'effet important de ça, quoi. Donc maintenant, il reste une autre chose, c'est les externalités de connaissances. Les superstars génèrent des externalités de savoir scientifiques positives auprès de leurs collaborateurs. Leur capacité intellectuelle influence positivement les personnes travaillant à proximité, sans que cela ait à voir vraiment avec les compétences particulières, c'est-à-dire les skills particuliers, vous voyez ce que je veux dire, ou leur accès aux ressources, quoi. La proximité physique n'est pas vraiment, en termes géographiques, je veux dire, proximité géographique, travail au sein d'une même institution, là, on ne voit pas ici d'effet significatif. Mais par contre, si on regarde, est-ce que c'est des scientifiques qui travaillaient dans des domaines de recherche similaires, et là, on voit un effet important et significatif. Donc, si c'est une superstar qui était vraiment dans votre domaine, et qu'il disparaît, ça affecte, s'il y a une vraie proximité intellectuelle, d'après cette étude, ça affecte davantage la production de ceux qui étaient dans votre domaine. Donc c'est intéressant parce que ça vous dit, voilà, c'est vraiment l'effet d'externalité. J'apporte particulièrement aux gens qui sont vraiment, qui travaillent avec moi sur le même genre de choses que moi. C'est une étude, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est faite sur un nombre d'observations quand même limité. On parle de peu de décès quand même. Hein. On regarde le décès des superstars. Donc on se dit, bon ben voilà, c'est intéressant. Donc la proximité intellectuelle a un effet sur les scientifiques travaillant dans des domaines de recherche similaires. Il est négatif et significatif. Les superstars développent des idées innovantes dans leur domaine. Ces idées se diffusent parmi les co-auteurs dans les domaines d'études sont connexes. Voilà, la proximité importante pour la production scientifique n'est pas tant géographique que dans l'espace des idées. Voilà. Donc conclusion de cette étude, l'effet de la mort des superstars sur leurs collaborateurs, baisse importante de la production scientifique des collaborateurs. Par quel mécanisme ? Eh bien, compétences particulières, l'effet est là, mais pas très significatif. Accès aux facilités, aux ressources, effet est là, mais pas très significatif. Externalité de connaissances, oui. Le décès d'une superstar semble entraîner la mort d'une partie de son champ scientifique, car la source de connaissances dont s'inspirent les co-auteurs disparaît. La science avance un enterrement à la fois, comme dit Max Planck. Voilà. Merci pour la. Voilà. Alors il y a des questions ouvertes puisque là je vous parle de recherche récente et des questions qui sont alors très importantes. Est-ce que ces externalités sont plus importantes si on travaille dans la même entreprise que pas dans la même entreprise? Est-ce que ça déborde des domaines des entreprises? Et alors comment ça interagit avec à la géographie de l'entreprise? Quel est l'effet du décès d'une superstar sur les scientifiques dans des domaines proches mais qui ne sont pas co-auteurs de la superstar? Donc là on peut regarder et je vais passer tout de suite à la deuxième, je vais passer tout de suite à Jaravel qui est la version la plus moderne de ce type d'idée. Voilà. Vous allez voir que tout de suite on passe à une technologie plus avancée parce que les données sont bien meilleures. Alors je passe à Jaravel tout de suite, là mon affichage. Alors, mode plein écran, voilà. Alors, j'ai peur que je n'aurai pas le... Il est quelle heure, là, maintenant? J'ai peur d'aller trop vite, non? Je m'arrête après Jaravel, après je vais faire une pause pour avoir... Je pense que... Non, j'ai encore le... Alors, c'est une étude très récente, et ce qu'on fait Jaravel, donc là, jusqu'à maintenant, on avait regardé les superstars. Et tout ce qu'on avait regardé, c'est... On sait qu'il y a la mort d'une superstar, et on a des données uniquement sur la production scientifique des co-auteurs, d'accord? Et on connaît les domaines de recherche. Jaravel, il va faire beaucoup mieux parce que lui, il dit, moi, je vais avoir accès non seulement aux données de brevets, mais je vais également avoir accès aux données de revenus. Et c'est là qu'à nouveau, il fait il est le premier, en fait. Et moi, quand j'ai commencé à faire le truc finlandais, c'est très basé sur lui. C'est-à-dire qu'il est le premier à avoir mis ensemble, ce n'est pas totalement vrai parce que mon co-auteur finlandais l'avait déjà fait un petit peu, mais à mettre ensemble des données de revenus individuels et des données de brevets. Parce qu'il a accès à des données fiscales, d'accord? Donc, vous voyez, elle est US Department of Treasury, Neviana Petkova, et donc Jaravel, qu'est-ce qu'il fait? Il doit aller, parce qu'il n'a pas le droit de regarder ses données à Harvard, il quitte Harvard et il va régulièrement faire des séjours à Washington pour pouvoir être dans le bureau avec Petkova, parce que c'est ensemble qu'ils peuvent regarder les données de revenus et devoir regarder l'impact qu'a la mort d'un auteur sur les revenus futurs du co-auteur. Pas juste la production scientifique, mais les revenus futurs du co-auteur, d'accord? Donc c'est ça qu'ils vont faire, d'accord? Donc évidemment, ça fait suite au travail d'Azoulay, mais on passe, on passe vraiment à une technologie empirique très supérieure à ce qui pouvait être fait avant, d'accord? Le thème est le même, c'est l'influence des chercheurs sur leur environnement, mais ça va plus loin que Azoulay parce qu'il ne se limite pas à l'influence des superstars. L'idée, c'est l'importance prépondérante du travail en équipe et de la dynamique du travail dans la production de connaissances. C'est toujours la même idée de base, mais il va la mettre en évidence avec des données beaucoup plus fines que ce qui avait été fait auparavant. D'accord ? Donc, alors les données sont très similaires. Moi, vous vous souvenez quand j'avais parlé de mobilité des chercheurs, j'avais parlé d'un article historique de Haxigit et co-auteur sur données américaines qui remontait à 1840, mais j'avais surtout parlé d'un article américain de Jaravel, Bell, BE2L, qui est aussi co-auteur de ce papier, Van Rienen et Chetty, qui le regardait, le cycle de vie de l'inventeur aux États-Unis. Eh bien, c'est en fait, leur article utilise les mêmes données que cet article-là. Les deux vont ensemble, si vous voulez. C'est deux articles vraiment qui se lisent ensemble. On met ensemble des données de brevets. Donc, USPTO, vous savez, les brevets déposés au US Patent Office, eh bien, il vous donne le nom de l'inventeur, il vous donne le lieu géographique, il vous donne les citations. Vous avez accès à plein d'informations sur les brevets, d'accord, et sur les citations des brevets. Et on met ça avec de l'information qui vient l'Office des impôts, et qui là vous dit quel est le revenu, quel est le revenu du travail, quel est l'âge, quel est l'employeur de ces inventeurs, etc. Et on met ces données ensemble, d'accord ? Alors, maintenant, là, on va regarder à nouveau la mort prématurée. Alors, ici, ils définissent la mort prématurée. Ils définissent la mort prématurée à l'âge de 4714 inventeurs. Donc là, vous voyez, avant, on parlait de 112 superstars. Maintenant, on passe là à une échelle beaucoup plus grosse. On passe à 4714 inventeurs, donc comme source exogène de variation dans les réseaux de chercheurs. Et on regarde l'effet sur les collaborateurs, publications et revenus, puisque ça, il n'y avait pas dans Azoulay, d'accord, dans les années qui suivent. Alors, la stratégie, elle est proche de celle d'Azoulay, mais avec davantage de données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va matcher des inventeurs décédés prématurément avec des inventeurs non décédés. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, voilà, je suis intéressé, on est deux personnes, l'un décède, l'autre ne décède pas. Mais je voudrais regarder juste l'effet du décès. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais comparer que des gens dans la même cellule. Je vais créer une cellule, c'est ce que j'appelle une cellule, où je dis, voilà, je mets dans la cellule des individus qui, en tout point, sont identiques, sauf qu'il y en a un qui meurt prématurément et l'autre pas. D'accord ? Donc, je prends deux personnes, Simon et moi. Moi, c'est lui qui survit, le plus jeune, normal. Hein ? Donc, Simon, toi, tu survis, moi, non. On est identiques en tout point, d'accord ? Et on va regarder tes co-auteurs et mes co-auteurs. Et on va comparer, on va faire comme si, tu vois, on va créer un groupe de ce qu'on appelle de placebo. Vous voyez, c'est-à-dire que si Simon est identique en tout point à moi qui meurs, il est mon placebo. Et on va regarder l'évolution des co-auteurs, des revenus et des brevets des co-auteurs de Simon par rapport à moi. Mais Simon, il est mon counterfactuel, il est ce que j'aurais été si je n'étais pas mort, tu vois, voilà. En gros, puisque tout le reste qui est observable, on prend exactement pareil, d'accord ? Donc, le groupe de contrôle est un groupe identique. Donc, on construit un réseau de co-inventeurs pour chaque inventeur. Il y a des survivants, d'accord ? Il y a les inventeurs similaires aux non-décédés, ce que je disais tout à l'heure. Et on va comparer l'évolution des revenus et des brevets des co-auteurs de ceux qui meurent vraiment de ceux qui sont les placebos de ceux qui meurent, voyez ? Donc, et on compare l'évolution, d'accord ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des co-auteurs. Et là aussi, Jaravel fait mieux que Azoulay, parce qu'il dit, voilà, j'ai des réseaux également. J'ai des co-auteurs, et je peux aller jusqu'à l'infini comme ça. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant également. Je vais pouvoir dire des choses là-dessus. Alors, ça vous donne à peu près, ça vous donne de l'information sur le survivor. Il y a le vrai survivor, c'est Simon. Et le placebo survivor, c'est moi, donc c'est ça. Hein. Le placebo survivor, c'est celui qui meurt, qui ne survit pas. Ou c'est le contraire. Placebo survivor, c'est le co-auteur de quelqu'un qui meurt. Qui meurt, c'est ça. D'accord. Le real survivor, ça c'est les... D'accord. Ça, real survivor, c'est le co-auteur qui survit, parce que les co-auteurs survivent toujours ici, d'accord ? Le co-auteur, il survit. Mais le real survivor... C'est le co-auteur d'un quelqu'un qui meurt, voilà. Et le placebo survivor, c'est le co-auteur de quelqu'un qui ne meurt pas, mais qui est en tout point identique à celui qui meurt. Voilà, donc on a les revenus, vous voyez, ils sont identiques. Vous voyez, les revenus, c'est pratiquement pareil. Les patent applications, c'est à peu près pareil. Vous voyez, ils sont en tout page. L'âge est pratiquement le même. Vous voyez, on les met vraiment... On met vraiment en tout point ces deux échantillons sont identiques en tout point, quoi, voyez, sauf pour le fait que l'un va mourir et que l'autre ne va pas mourir. Voilà. Alors, voyez, regardez, le résultat principal, la beauté de ça, c'est qu'on peut tout représenter sur une magnifique figure. Et vous voyez tout de suite, le placebo, ça, c'est les co-auteurs de Simon, et ça, c'est les co-auteurs de Philippe. Vous voyez, alors, là, les co-auteurs de Philippe, là, vous voyez que les courbes sont indistinguables avant la mort de Philippe, vous voyez. C'est pareil, hein. Et puis, ici, hop, là, il décroche celui-là. Et celui-là, il continue, vous voyez. C'est triste, hein, comme histoire, quand même. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat principal. Alors, je peux m'arrêter, m'en aller maintenant. Vous avez vu ça, c'est superbe. Alors, après, évidemment, je vais montrer des tableaux. Et donc, je montre ces tableaux. Qu'est-ce qu'ils montrent, ces tableaux? Ben, ils montrent que, effectivement, on voit un effet sur le total. Là, c'est sur les earnings. Hein, ben, il faut que je dise ici, d'ailleurs. Ouh là là, c'est l'effet. Ouh là là. Là, c'est l'effet de la mort sur les revenus, hein, sur les revenus totaux du survivant. D'accord? Là, je regarde les revenus, ce qui n'était pas dans Azoulay. Azoulay, ne regardez pas, il n'avait pas des données sur les revenus, Azoulay. D'accord? Donc, on voit qu'il y a un effet très significatif, négatif, évidemment, de la mort d'un auteur sur les revenus des co-auteurs. Vous voyez, donc ça, c'est quand même très intéressant. Ici, le labor earning positive. Le labor earning positive, c'est simplement que c'est un indicateur qui vaut 1 si disons le co-auteur a des revenus positifs et 0 si le co-auteur n'a pas de revenus positifs essentiellement, voilà. Et on voit qu'effectivement, eh bien, on a plus de chances d'avoir des revenus 0 si le co-auteur meurt, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant. On voit vraiment un effet important. Du décès, voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, on peut représenter, hein, là, j'ai représenté le revenu, voilà. On voit d'ailleurs le revenu total, donc ça, c'est on voit vraiment le revenu total, on voit qu'il n'y avait pas vraiment de variation du revenu total ici, mais que là, il y a vraiment un break, quoi, hein, du revenu, on le voit vraiment bien. Le revenu du travail, c'est pareil, à peu près là, on ne voit pas de trend, mais là, on voit que ça descend. Ce qui est intéressant, c'est que les revenus disons, du capital, on voit moins, c'est moins prononcé. C'est intéressant que la baisse est moins, la rupture de tendance est moins prononcée. C'est intéressant de savoir pourquoi, et je ne crois pas que ce soit très discuté dans le papier. On la voit quand même. Là, ça baisse plus que là, mais c'est un petit peu moins prononcé que tout à l'heure. Donc voilà. Alors maintenant, on a regardé l'effet sur les revenus. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'effet sur les brevets. Et à nouveau, l'effet sur les brevets, ben, on voit que là, c'est juste le nombre de brevets. Là, c'est le nombre de citations. C'est le nombre de brevets pondéré par les citations. Et là, c'est le nombre de brevets dans les top 5 cited. Quelle que soit la mesure de brevets ou de citations ou de brevets pondérés par les citations, etc., ou de qualité du brevet par les citations, on voit qu'il y a un effet significativement négatif de la mort de l'auteur sur les co-auteurs. D'accord ? Donc ça, c'est beaucoup plus proche de ce qu'a Azoulay, mais là, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de trend là et que là, c'est le nombre de brevets ajustés par les citations. Et on voit que là, ça baisse de manière très dramatique après le décès de l'auteur. Voyez, donc maintenant, l'idée, c'est quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme à l'œuvre? Est-ce que c'est un effet dans l'entreprise ou des effets de réseau? Est-ce que c'est une externalité top-down des superstars? Est-ce que c'est du capital spécifique à l'équipe de travail? Alors, on peut regarder en détail et voir un petit peu quels sont les mécanismes qui sous-tendent cet effet de la mort de l'auteur sur la productivité et les revenus du co-auteur. Alors, par exemple, ici, c'est que on regarde le mean total earning. Et on voit qu'effectivement, est-ce qu'on voit vraiment l'effet de la mort d'un inventeur et peut déstabiliser l'équipe de travail? Alors, on voit pas vraiment une rupture de travail. On voit un petit peu, on voit un peu quand même que c'est un peu moins pentu là que là, mais ce n'est pas significativement moins pentu. Il y a un petit effet, disons. Il n'y a pas un effet très significatif. C'est un petit peu moins pentu, mais seulement on ne voit pas une vraie rupture de la courbe. On voit quand même là, mais ça reprend là, vous voyez. Donc, c'est un petit peu moins pentu. Mais surtout, l'important, c'est que vous voyez que le truc important ici, c'est que vous voyez, là, il y a le réel, c'est moi, c'est mes co-auteurs à moi, et là, c'est le placebo. Et vous voyez qu'il n'y a pas de vous voyez que les deux courbes ne s'écartent pas l'une de l'autre. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'effet. D'accord? Vous voyez, ces courbes sont à peu près la même, quoi. Là, c'est le mean total earnings des co-auteurs, de l'équipe, vous voyez? Vous voyez que ce n'est pas très différent pour des gens qui sont des co-auteurs de Simon et les gens qui sont mes co-auteurs. Donc ça, bon, on déstabilise l'équipe de travail, ça n'a pas l'air d'être l'effet dominant. L'effet de réseau, on peut le regarder, c'est-à-dire, on voit effet de réseau, on ne voit pas vraiment d'effet de réseau, vous voyez, sur le... Donc là, c'est second degree connection, c'est relatif to second degree connection. Là, on regarde l'effet, est-ce que c'est la mort de quelqu'un qui est un co-auteur de quelqu'un, quoi. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment un effet de réseau très important, hein, puisque les deux courbes restent les mêmes, à peu près. Alors, effet dans l'entreprise, effet de réseau, pas vraiment, hein. Alors maintenant, ça pourrait être un effet superstar à nouveau. Alors là, on regarde, ça c'est très intéressant, parce que là, on regarde, si vous voulez, le quartile de revenus. Et là, on a une manière, c'est assez sympa, parce que superstar, on peut regarder superstar en termes de revenus. Et là, c'est les revenus. Là, horizontalement, c'est les revenus du survivant, et verticalement, c'est les revenus du co-auteur mort. Alors, quand on est en bas, on est dans le cas d'une superstar, c'est-à-dire que le co-auteur mort avait des revenus très élevés. Et on voit que, quelle que soit la qualité vous voyez, ça reflète un peu la qualité du survivant. Et là, ça reflète la qualité du mort, d'accord ? Alors, on prend le mort de qualité maximum. Et vous voyez que, quelle que soit la qualité, le revenu de départ du co-auteur, donc si c'était un co-auteur déjà, ou lui-même connu, ou lui-même plutôt débutant, etc., on voit que l'effet est toujours négatif. Donc, on voit l'effet de superstar. On retrouve l'effet de superstar d'Azoulay. Vous voyez, si vous avez un superstar qui meurt, eh bien, quel que soit le niveau de ses co-auteurs, on voit une baisse sensible du revenu des co-auteurs. D'accord ? Mais on voit aussi que c'est assez intéressant, c'est qu'on voit un effet sur toute la diagonale. Si c'était juste un effet superstar, on verrait que des étoiles là et rien ailleurs. Or, vous voyez que vous avez des étoiles partout, et notamment sur la diagonale, ce qui montre que ça va au-delà d'un effet superstar. Vous voyez ? D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et en général, vous affectez les revenus des gens moins bons que vous. Vous voyez, c'est intéressant, ça aussi. Regardez, je suis à niveau 2, j'affecte peu les revenus de gens qui sont meilleurs que moi. Mais j'affecte les revenus des gens moins bons. Vous voyez, c'est intéressant qu'il y ait peu d'étoiles au-dessus de la diagonale, mais que vous avez des étoiles au-dessous de la diagonale. Vous voyez ? En général, j'affecte les revenus des gens moins bons que moi. Vous voyez, la logique de la superstar, elle se transpose à tous les niveaux, quelque part. Ça aussi, c'est intéressant. D'accord ? Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Bon, est-ce qu'il y a un effet de réseau ? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a un effet superstar ? Oui, mais ce n'est peut-être pas l'effet dominant. Et on va regarder maintenant l'idée que, eh bien, il y a un capital spécifique à l'équipe de travail, voilà. Donc, si vous voulez, en fait, on va regarder ce que montre Jaravel, c'est que l'effet de la mort n'est pas dû tellement à la proximité physique, mais à l'intensité de collaboration au sein des équipes de recherche. On avait vu déjà dans Azoulay que ce n'était pas la proximité géographique qui jouait, mais la probabilité en termes de domaine de recherche. Mais lui, il va plus loin, il regarde l'intensité de collaboration. Et il le regarde par le fait qu'on a été co-auteur de beaucoup de papiers. La co-invention est la force motrice de ce mécanisme. Et ça, c'est très important. Et cet effet persiste entre firmes différentes et avec des co-auteurs géographiquement éloignés. Mais l'effet est beaucoup plus fort si c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup collaboré dans le passé. Et ça, il peut regarder. Donc, il peut dire, c'est un co-auteur d'une fois ou est-ce que ça a été une longue histoire d'amour ? Vous avez fait créer beaucoup de papiers ensemble. Eh bien, l'effet est beaucoup plus fort si vous avez une grande histoire d'amour que si vous avez juste une histoire épisodique. Voilà. Donc on voit que... le co-pattern share, c'est... Donc, on regarde l'effet sur le earnings, mais... vous voyez, c'est le co-patent share, c'est-à-dire la part des brevets de l'inventeur survivant qu'il a co-inventé avec l'inventeur décédé. Et on voit que ça a un impact très important, c'est-à-dire ça avec la mort, la mort combinée avec la patent share a un effet très important sur le earning. C'est-à-dire que la mort vous affecte, d'autant plus si vous avez eu si la plupart des articles que vous avez fait dans le passé est avec ce co-auteur. Vous voyez, c'est intéressant. L'intensité de la collaboration joue un rôle important. D'accord ? Donc, ça, c'est la... Donc, conclusion de cet article, le capital spécifique à l'équipe de travail est primordial pour l'output d'un inventeur, mesuré par les brevets, par les revenus, par la productivité, par les citations. L'externalité positive de l'intensité de la collaboration, à la fois au sein du projet, mais aussi dans les projets connexes, et l'implication, eh bien, il faut des politiques publiques facilitant la mise en place d'équipes de recherche. Tout ce qui peut être bon pour les équipes de recherche, c'est bien, et d'où l'importance de l'ANR, qu'elle soit mieux financée, et d'avoir des IDEX, et d'avoir des universités bien financées. Tout ça est toujours une très bonne chose. Et voilà un petit peu ce qui, voilà un petit peu ce qui, voilà ce qu'on peut dire de, voilà, de ce genre d'études. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut regarder dans une firme la hiérarchie, au niveau hiérarchique des firmes. On peut dire, voilà, est-ce que l'externalité est à mon niveau hiérarchique ou à d'autres niveaux, et regarder un petit peu ça et continuer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux, disons, dans ce domaine. Alors là, il est 59 ou 55 ? 55. Je propose qu'on fasse une pause.